Ah, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. J'avais prévu de prendre un texte, que je dirais, de circonstance pour ce matin. On est quelque part entre Pâques et la Pentecôte, ou entre Pâques et l'Ascension. Et quand j'ai vu arriver le mail avec ce que Sophie avait l'intention de nous proposer pour ce culte, mais j'ai dit, mais on est en plein dedans. Et donc, j'ai pas changé d'avis, j'ai bien gardé le texte que je vais vous proposer de lire maintenant. C'est dans l'évangile de Jean, vous savez, ce texte est connu, bien sûr, puisque j'espère que vous avez tous lu les évangiles et que vous êtes plus capables de compter combien de fois vous les avez lus. C'est la meilleure des façons d'oublier. Ça, c'est important. Et je vous propose de lire ensemble dans l'évangile de Jean. On va commencer avec le dernier verset du chapitre 20, où l'apôtre nous dit « Ceci est écrit, tout ceci, y compris ce qui va suivre, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Alors il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Mais aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Puis, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » On va arrêter là la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est pleine d'enseignements et de richesses pour nous, que nous puissions avoir des cœurs réceptifs et entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Alors, imaginons le contexte. Pendant 3 ans, ces gens-là ont suivi Jésus. Ils ont vécu avec lui des grandes choses. Ils ont eu peur avec lui, parfois aussi, jusqu'aux dernières heures où tout s'écroule. Et quelque part, quand on a besoin de consolation, puisqu'on en a parlé ce matin, c'est parce que tout d'un coup, quelque chose fait que nos projets, notre vision, nos certitudes, tout ça s'écroule, parce qu'il y a des difficultés qui nous assaillent, parce qu'il y a une interrogation qui nous submerge, parce qu'on ne sait pas comment faire pour prendre certains virages qui ne sont pas faciles. Donc pour ces disciples, pour moi, c'est tout à fait des gens qui avaient vraiment besoin de consolation. Alors bien sûr, il y a eu quelques événements après la croix, des événements qui ont dû commencer à les faire réfléchir. Mais pour autant, ils sont toujours dans une situation intermédiaire et ils ont quand même toujours besoin de quelque chose. Le tombeau était vide. Pierre et Jean, ils y sont allés, ils ont constaté que le tombeau était vide. Et le texte nous dit, ils virent et ils crurent que Jésus était ressuscité. Bon. En tout cas, ils ont cru qu'il n'était plus là, quoi. Donc il était ailleurs, mais pas là. Et eux, ils étaient là, tout seuls. Et puis il y a certaines personnes, des femmes, qui disent l'avoir rencontré, lui avoir même parlé dans le jardin, après l'avoir pris pour le jardinier, etc. Vous connaissez ces textes. Même si, à l'évidence, on a du mal à les croire. Hein, c'est aussi ce que nous trouvons dans les évangiles. Et puis il y a deux personnes proches des disciples qui, sur un chemin, tout d'un coup, se trouvent avec une troisième personne qui vient discuter avec eux. Et ils se rendent compte que c'est Jésus qui marche avec eux. Ils étaient même à deux doigts de partager le pain, de manger avec lui, mais il n'est plus là. Pourtant, ils sont sûrs d'avoir vécu quelque chose, mais qui, en quelque sorte, n'amène pas à une conclusion. C'est un des éléments qui fait où on en est. Et puis après, ils se montrent à tous les disciples attablés ensemble dans la même pièce. Hein. Enfin, tous, ils étaient 10, hein, puisque on va dire 12, moins Judas 11, moins Thomas qui était, je ne sais pas quoi, au week-end ailleurs. Donc, il n'était pas là. Quoi. Bon. Donc, ils étaient dans 10. Et Jésus arrive au milieu d'eux. Et donc là, c'est pas juste moi tout seul qui fais mes rêves dans mon coin. On est à plusieurs, c'est pas une illusion collective. Enfin, voilà, il est vraiment présent. Il est présent bizarrement quand il est passé au travers de la porte. Enfin, tout ça, voilà. Il y a des signes comme ça que Jésus leur a envoyés. Mais ça suffit pas, manifestement. Et pourtant, quand Thomas revient de son week-end, il leur dit « Nous avons vu le Seigneur ». Donc, il y a un truc qui s'est passé, là. Et donc, la semaine d'après, c'est même Thomas qui était assez rapide pour mettre des obstacles avant de se décider à être d'accord. Hein, c'est quand même c'est un peu la caractéristique de Thomas, de dire d'abord non avant d'accepter de dire oui. Et là, finalement, mon Seigneur et mon Dieu, il reconnaît qu'il a vu le Seigneur. Mais toujours pareil. Mais voilà, on a l'impression petit à petit, après Pâques, il se passe des petites choses, que le Seigneur envoie des clins d'œil pour aider ses disciples à sortir de ça. Mais pour l'instant, ça n'a pas de rapport avec leur vie. Concrètement, que faire de ces apparitions? Bon, d'accord, le tombeau est vide, ok. Mais moi, je suis vivant, je suis là, et so what? Bon, d'accord, il paraît qu'il a parlé avec Marie-Madeleine, il paraît que deux disciples ont failli manger avec lui, il paraît que... Oui, d'accord, il y a un certain nombre de signes comme ça qui nous viennent, dont on entend parler, mais qu'est-ce que ça... Est-ce que ça va m'enlever le vide que j'ai au quotidien, le fait de me dire, mais oui, mais moi, je suis là tout seul. Et puis, celui en qui j'ai cru, avec lequel j'ai vécu pendant 3 ans, en étant persuadé que ça y est, on tient le Messie, là, cette fois c'est bon, et ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc voilà notre histoire. Ils sont 7 ce jour-là, y compris Thomas, qui est avec eux. Ils sont sans doute dans leur maison de Capernaum, voilà, et il ne se passe rien. Alors, pourquoi sont-ils là déjà? On peut se demander, hein, parce que la dernière fois qu'on les a vus, c'était à Jérusalem, dans cette pièce-là, et là tout d'un coup ils sont là. Alors, est-ce que c'est parce que certains leur ont dit que Jésus avait dit qu'il les rejoindrait en Galilée? Bah, ça peut être une des raisons. Peut-être aussi, tout simplement, ils ont fui Jérusalem. C'était un peu dangereux, hein, parce que c'est quand même là qu'étaient les chefs religieux qui avaient mis à mort Jésus. Et ils étaient un peu identifiés comme étant proches de cette bande-là. Ou peut-être tout simplement parce que les habitudes reprennent le dessus. Voilà, parce que malgré les quelques éclaircies qu'on a mentionnées avant, les quelques signaux qu'ils ont entendus, qu'ils ont vus eux-mêmes, vécus ou entendus, racontés par d'autres, ça ne suffit pas vraiment. C'est long parfois la consolation. Et c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre aussi. Des fois ça prend un chemin qui est long, que ce soit la nôtre ou celle que nous essayons d'apporter à quelqu'un. Nous ne nous attendons pas à avoir une réponse immédiate, ça prend du temps. Peut-être c'est aussi simplement par nécessité économique. Jésus n'est plus là, on va dire l'argent n'arrive plus trop dans la caisse des disciples, hein, voilà. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il va falloir recommencer à bosser, quoi. Et puis donc leur travail, c'est d'être pêcheur, donc bon, voilà, il va falloir s'y remettre. Il y a peut-être un petit peu de toutes ces raisons-là. Et finalement, le vrai chef, là, Pierre, celui qui est toujours celui dont on attend la parole qui va mettre le monde en mouvement, allez. Je vais pêcher, je vais à la pêche. Donc, peut-être avec tous ces morceaux de raison que je viens de vous expliquer, il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait chercher. Et tout le monde va le suivre. Alors, on est rapide à les condamner, à leur dire, oh là là, c'est pas normal, c'est pas bien, ils retournent. Oui, mais enfin, ils étaient dans une situation vraiment compliquée. Mais c'est vrai que quand on compare à leur appel, à la façon dont Jésus est allé les chercher, on a vraiment l'impression que le film se rembobine, quoi. On repart en arrière. Et rendons-nous compte que si rien ne s'était passé, ce retour en arrière pourrait faire que on ne serait pas là ce matin, par exemple, parce qu'on n'aurait plus jamais entendu parler de cette histoire, parce que le nom de Jésus serait peut-être complètement oublié, aurait complètement disparu de la mémoire collective de l'humanité, si simplement il ne s'était rien passé d'autre que on va à la pêche et on reprend la vie comme avant. Et voilà, on a vécu une belle aventure, mais ça sera un beau souvenir. On gardera un album photo et puis, ça sera tout ce qu'on pourra en retenir. Rappelez-vous quand, prenons par exemple dans l'évangile de Marc, quand en passant le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. Ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Vraiment un mouvement radical. Jésus passe, il les appelle, il quitte tout, il le suit. Et là, il se retrouve tout seul. Ben, hop, le mouvement arrière est en train de s'opérer. Oui, la déception était très grande, trop grande peut-être. Peut-être Pierre particulièrement, hein, vous savez. Alors, il est emblématique de l'ensemble des disciples, bien sûr. Ils sont tous, quand Jésus a été arrêté, tous les disciples se sont enfuis. Et j'allais presque dire, c'est Pierre qui s'est le moins enfui, puisqu'il était tellement proche qu'il a fini par être questionné par des gens soupçonneux en disant « Mais t'étais pas avec lui, toi, par exemple ?» Donc, lui aussi, il a fini par se sauver ou par se défendre. Mais reconnaissons-lui qu'il était resté suffisamment proche pour être interpellé par les gens qui s'occupaient de l'arrestation de Jésus. N'empêche qu'il portait ça sur lui, sans doute. Après avoir vécu 3 ans avec lui, après avoir eu des déclarations fracassantes et des témoignages d'engagement très forts, ben lui aussi s'est rendu compte, et ça lui pèse, qu'il n'était pas, il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. Ils ont tous besoin d'être consolés. Ils sont déçus par eux-mêmes, par ce qui s'est passé. Ils sont désemparés, quoi faire maintenant de tout ça? Ils sont un peu désœuvrés, c'est vrai qu'ils avaient un nouveau rythme de vie. Hein. Avant, ils étaient pêcheurs, ils allaient pêcher, apparemment pêcher la nuit à l'époque, voilà, tout ça. Puis ils dormaient la journée. Bon, là, ils étaient partis avec Jésus sur les routes. Ils sont désœuvrés. Et puis, ils ont sûrement en tête l'échec, ce qu'ils considèrent comme l'échec de cette aventure. On aurait peut-être dû le défendre. Peut-être qu'on aurait dû dire ceci, on aurait dû dire cela, on aurait dû choper Judas et puis le virer de la troupe. Je sais pas, on peut imaginer tout ce qu'ils avaient en tête, de ce qu'ils auraient dû dire. Est-ce que ça fait pas partie de ce qui nous amène à ce besoin de consolation? Tout ce qu'on se met dans la tête, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû dire cela. Quand on rencontre quelqu'un, quand quelque chose se passe pas bien, et puis après, hein, c'est toujours après qu'on a les bonnes idées. Mais ça, enfin moi en tout cas, c'est peut-être pas vous, mais et après on dit mais j'aurais dû dire ça. Mais pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi? Voilà. Et les disciples, ils sont en plein dans ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et alors moi je trouve la façon dont l'évangile est écrit, moi ça me fait toujours, je trouve ça super ça, parce que le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Pouf, pouf, comme ça, hop, c'est... Hein. Il se trouve là. Quand rien, c'est quelque chose que nous devons prendre pour nous, ces histoires, c'est de l'histoire. Mais en même temps, c'est des paroles pour nous, pour notre vie de tous les jours. Quand on n'arrive plus à sortir du trou, quand on tourne en rond autour de « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais, etc. » Comme sont les disciples. Ou peut-être des choses plus graves, quand Pierre se dit « c'est ma faute, c'est moi qui l'ai renié, etc. » Voilà, on peut imaginer ça. Quand rien n'arrive à nous faire sortir de cette tristesse, de ce désarroi, de la colère, Jésus se trouve là, sur le rivage. Il est présent. Est-ce que nous le croyons, ça? Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons « on l'a chanté ce matin, on le lit, on le dit, on le partage », on croit que Jésus est toujours à nos côtés, et il est en particulier à nos côtés, quand justement on est dans une situation dont on ne sait plus sortir. Donc il vient à la rencontre de ses 7 disciples. Et alors c'est le miracle qui nous est raconté, en tout cas c'est présenté comme un miracle. Hein. Ils ont pêché toute la nuit, ils sont crevés, ils n'en peuvent plus. Et puis il leur dit, c'est facile, jetez le filet de l'autre côté, tac, et bing, hop, ils ramassent plein de poissons. C'est un peu une redite d'un événement qui a déjà été relaté dans l'Évangile un peu plus tôt. Hein. Si on regarde dans Luc au chapitre 5, il y a un peu ça, il y a même un échange, Pierre qui dit, Seigneur, on est crevé, on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là, c'est pas traduit de cette manière-là, mais c'est bien ça, c'est parce que Jésus a dit quelque chose que les disciples ont commencé à se mettre en mouvement. Il a dit quelque chose, on va y aller, et ça va commencer à enclencher des événements qui vont petit à petit les amener à se remettre debout, à se redresser. Alors bien sûr, certains peuvent dire, oui, c'est facile, du rivage, il a vu qu'il y avait un banc de poissons qui arrivait, etc. Peu importe, Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que sur ta parole, je vais jeter le filet et je recommence à me mettre en disposition pour entendre ce que tu as à me dire et pour me mettre debout, pour marcher avec toi. C'est ça aussi le début de la consolation. C'est commencer, la première chose qui paraît, bon, c'est les pêcheurs, donc jeter le filet à la mer, on est dans le béaba de leur travail, n'empêche que c'est ça qui a commencé. Mais ça leur rappelle aussi des événements qu'ils ont vécu avec lui. Ce Jésus qui commande aux événements, qui commande à la tempête, qui a donc déjà permis cette pêche miraculeuse, qui multiplie les pains, etc., etc. On est dans... Ça leur rappelle, là aussi. Voilà quelque chose qui est important. Comment nous souvenons-nous des événements que nous avons vécus avec le Seigneur? Comment les gardons-nous dans notre cœur comme des jalons sur notre route? Vous savez, les jalons, c'est piqué, puis quand on est loin, on voit qu'ils sont finalement tous alignés. Dans notre vie, nous avons tous vécu des moments où le Seigneur nous a parlé, c'est de façon insidieuse, de façon éclatante, de façon communautaire, personnellement, dans un instant de solitude, peu importe. Comment gardons-nous ces idées en tête pour nous dire, mais oui, on a déjà vécu des trucs comme ça. On a déjà vécu ça. Et donc, que nous dit Jésus, dans sa parole également, bien sûr, que nous sommes appelés à lire. Et donc, les disciples, ils sont là, ils voient ça. Et là encore, tout aurait pu basculer d'un côté ou l'autre. Ils auraient pu dire merci. Merci pour la pêche, c'est bon. Okay. Mais c'est plus que ça. Est-ce que c'est encore une apparition? Et là, il y en a un qui dit, mais c'est pas possible, c'est le Seigneur. Ça peut pas être autrement. Ce que je vis là en ce moment... C'est pas juste une expérience ordinaire, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Sachons détecter aussi ces moments où le Seigneur nous parle, des fois de façon tout à fait anodine, complètement indifférente, en allant peut-être se promener dans les forêts au-dessus de Dieu-Loire, en ramassant des plantes, je ne sais plus, ça, parce que je te vois là en face de moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre se jette à l'eau. Pierre dit, c'est pas possible, toc, alors non. Bon, il devait être, je sais pas comment ils étaient habillés, mais enfin bref, il pêchait à moitié à poil, quoi, sans doute. Hein. Donc il se couvre un petit peu quand même pour être correct, et il y va, il plonge. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans l'eau, Pierre. Et une autre fois aussi, il a essayé de partir sur l'eau, hein, vous vous souvenez de ça? Hein, quand Jésus vient vers eux, ils sont dans la tempête, etc., et puis Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi, permets-moi d'aller, ben viens avec moi. Sauf que là, il était à deux doigts de boire le bouillon. Alors, je plaisante évidemment un petit peu, mais est-ce qu'il a appris à nager depuis l'épisode qui est dans Matthieu chapitre 14? Je ne crois pas que ce soit ça le sujet. Et c'est, par contre, ce qu'il a appris, c'est qu'il avait appris à connaître qui était celui vers lequel il voulait marcher. Il avait appris à connaître. L'épisode où Pierre manque de se noyer, là, Jésus sauve-moi, et Jésus le tend la main et le relève, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et au chapitre 16, c'est là qu'on a cette déclaration fracassante, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre, il avait appris aussi, pas tellement à nager, mais surtout à savoir ce que Jésus était capable de faire et qui il était. Et peut-être que, à cause du poids qu'il a en lui-même, de ce qui s'est passé, de l'attitude qu'il a eue, il a vraiment, ça ne peut pas attendre, quoi. Ils auraient pu continuer à ramer tranquillement et puis aller jusqu'au bord. Ils étaient qu'à, combien on dit, 200 coudées, ça ne fait pas tout à fait 100 mètres. Enfin, il a quand même nagé 100 mètres, hein. Bon, c'est déjà un petit bout. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que ça, mais je trouve que moi, 100 mètres à la nage, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y est allé, il est arrivé. Et quand... Nous sommes comme ça dans des situations vraiment très compliquées. Est-ce qu'on est prêt à plonger? Voilà, le Seigneur nous envoie des signaux, des petits signaux ici, là, des choses comme ça. Il y a un moment, il faut qu'on y aille, il faut plonger. Et si nous le faisons, croyons que nous allons retirer du fruit en abondance. Comme là, il y avait un filet, il était tellement lourd, 153. Alors bon, il y a plein de gens qui se sont posé des questions, pourquoi on nous dit qu'il y avait 153 gros poissons? C'est vrai, en fait, on s'en moque un peu. Hein, bon, donc là, c'est pareil, j'en ai deux pages d'explication là de ce que ça peut vouloir dire, ce 153, vraisemblablement, ça veut sur... D'abord, bon, c'est un indicateur précis pour dire que c'est vraiment arrivé. La preuve, c'est qu'ils ont compté et que c'était comme ça. Voilà, ils ont retrouvé leurs habitudes de pêcheurs. À la fin de la pêche, on compte les poissons, puis on les partage entre les pêcheurs. Hein, donc on est revenu dans l'exercice professionnel bien maîtrisé. Et puis en plus, ça veut dire beaucoup, quoi, j'imagine, 153, ça veut dire beaucoup. Certains ont dit que ça représentait toute l'humanité, toute l'Église. Enfin, voilà, voilà. Si vous allez regarder sur Internet, là, vous trouverez mille et une explications. Puis après, il y a des gens plus savants, la Kabbale, vous savez, qui donne des valeurs aux lettres et qui, à partir de trouve des significations chiffrées aux 153 gros poissons. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que, la pêche a eu lieu, elle a été fructueuse, au point qu'on ne pouvait pas retirer le poisson. Et le miracle, c'est ça, c'est que la réponse de Jésus, elle est totale. Parce qu'ils étaient sept, il n'avait pas besoin de 153 poissons pour manger ce matin-là, après leur nuit. Hein, d'accord ? Un ou deux auraient peut-être suffi, j'imagine. Donc, c'est, voilà, la réponse de Jésus, quand elle arrive, elle va être totale. Alors, pour les six des sept disciples, voilà, ça y est, c'est bon, ils ont compris. Alors après, ils sont arrivés, ils ont mangé avec Jésus. C'est amusant aussi, c'est ce moment où ils n'osaient pas lui demander qui il est. Hein. Alors, oui, on comprend un petit peu. La dernière fois qu'il l'avait vu, il était accroché à une croix en train de mourir quand même. Hein. Il avait vu un cadavre. Et puis là, il voit quelqu'un, manifestement, c'est lui. Enfin, il parle pareil, il dit, enfin, on se reconnaît. Mais... Donc on imagine les questions qu'il peut avoir en tête. N'empêche qu'ils ont... Donc après, ils ont partagé le repas. On peut... Voilà, la glace a été rompue. Ils ont retrouvé le contact avec Jésus, commence à pénétrer tout leur être, comment ils ont véritablement vécu ça. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, ça sera l'Ascension, puis après ça sera la Pentecôte, et tous ces gens-là vont participer au démarrage de l'Église et au témoignage qui nous amène ici aujourd'hui. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Mais, il y en a un qui a besoin d'un traitement spécial, vous avez remarqué, c'est Pierre. On a chanté le premier chant qu'on a chanté, là, tu nous appelles par notre nom. Et j'ai noté ça en plus sur mon petit papier tout à l'heure pour ne pas l'oublier. Tu nous appelles par. Voilà. Les interventions de Jésus, non seulement elles sont grandioses, elles sont totales, elles sont généreuses, et il est puissant, et en même temps il est personnel. Ce qu'il fait, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Et là, Pierre. Les sept disciples, bon, ils ont mangé avec le Seigneur, ça va mieux, quoi. Ils ont retrouvé quelque chose, un moment de communion avec lui. Mais il y en a un qui a besoin d'un traitement spécial, particulier. Les différentes apparitions qui avaient eu lieu jusque-là, comme je l'ai dit, c'était quelques signaux qui étaient envoyés, mais ils étaient encore un peu disloqués dans leur être intérieur, ces gens-là. Ils avaient vécu une espèce de traumatisme psychologique important. Vous savez, c'est comme quand on construit un puzzle, on commence un petit peu là, puis on commence un petit peu là, puis un petit peu là, puis ça fait des taches de couleur, puis on ne voit rien. Et puis il y a un moment où tout d'un coup on voit apparaître l'image qu'on est en train de poursuivre dans un puzzle de 500 pièces, etc. Et là c'est un peu comme ça qui est en train de se passer. Il y a eu des bruits, il y a eu des choses qui ont couru, et tout d'un coup la résolution se passe là. Et donc Pierre, il avait besoin d'un traitement spécial. Pourquoi ? Je veux dire, pas tellement parce qu'il a renié Jésus, parce que bon, certes, il l'a renié et on met beaucoup l'accent dessus, mais comme je disais tout à l'heure, il a fait comme tous les autres disciples, il était, j'allais presque dire, pas plus coupable que les autres, et même, il s'était même mis en risque plus. Là où il était coupable, c'est d'avoir dit juste avant de fanfaronner, je te suivrai jusqu'à la mort. Bon, ça peut-être, il aurait mieux fait de se taire quand il a dit ça. Mais pour le reste, moi, je n'accuse pas, j'accuse pas Pierre de cela. Par contre, Jésus savait qu'il avait des grandes choses à attendre de lui, et donc lui, il fallait vraiment arriver à le remettre sur pied et en faire quelqu'un de solide, quelqu'un qui allait pouvoir lancer justement cette opération de construction de l'Église et poursuite du témoignage de Jésus-Christ. Et à la Pentecôte, qui c'est qui se lève pour parler à tout le monde ? C'est Pierre. Donc on est, je ne sais pas, 15 jours peut-être après cet événement, et voilà vraiment ce que Jésus a semé, ce qu'il a fait avec lui, dans ce dialogue particulier, dans ce traitement spécial, comme je le disais tout à l'heure. Pierre, m'aimes-tu ? Alors bon, je ne vais pas commenter spécialement, parce que d'abord le temps passe, et puis vous avez tous déjà entendu sans doute beaucoup de commentaires, ou la plupart d'entre vous des commentaires sur ces versets-là, le fait que trois fois Jésus lui parle, bien sûr, ça rappelle le triple reniement de Jésus, le fait que c'est à la fois une question, Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que les autres, au point de devenir leur chef et de tirer le troupeau. Et puis c'est aussi un engagement qui est demandé, paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le berger de mon troupeau, etc. Donc Jésus est dans ce dialogue vraiment pour remettre Pierre sur pied, pour le consoler définitivement, pour aller au bout de ce processus, et vous avez vu que c'était assez long, finalement, c'est pas si immédiat. Puis il y a aussi des commentaires sur la différence dans le vocabulaire, hein. Pierre, m'aimes-tu, c'est le verbe agapeo, et Pierre répond, oui, tu sais que je t'aime, c'est philéo, donc voilà, on a beaucoup glosé sur le fait qu'il y avait ces différences-là, et je laisse à vous et à tous les commentateurs de se plonger là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Pierre, qui était appelé à des grandes choses, il avait besoin d'être particulièrement consolidé, il avait besoin d'être particulièrement fortifié pour pouvoir vraiment repartir, pour reprendre sa place, et puis pour devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui, à la Pentecôte, allait pouvoir vraiment lancer, si j'ose dire, la construction de l'Église. C'est un peu ça qu'on peut voir dans la suite de l'histoire. Et il avait besoin qu'avec lui, Jésus lui montre que quand on fait confiance et quand on retourne vers le Seigneur et qu'on accepte sa consolation, tout ce qui nous pèse, Jésus veut l'enlever et veut le jeter. Vous savez, il y a un texte dans Michée qui dit qu'il jettera vos péchés comme au fond de la mer. Alors, au fond de la mer, on sait qu'il y a des fosses abyssales qui descendent très 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 profond. Donc on va dire c'est là, c'est pas juste au bord de la plage, c'est au fond de la mer, un endroit qui fait que c'est complètement disparu. Et c'est ça que Jésus veut faire quand nous avons besoin de sa consolation, quand nous avons besoin d'être soutenus, fortifiés, parce qu'il arrive tous à vivre des moments difficiles, des moments pour lesquels on se sent un peu paumé, on ne comprend pas, il y a plein de points d'interrogation. Et on a besoin de ça, et on a besoin de comprendre que non seulement c'est nos fautes qui sont jetées au fond de la mer, mais c'est tout ce que nous-mêmes nous mettons dans notre tête et qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de cet instant de désespoir, de difficulté, de complexité de notre vie, etc. Ayons confiance que Jésus, lui, s'engage. Il est là, il est présent. Hein. Jésus se trouva sur le rivage. Donc Jésus, sachant qu'il est à côté de nous et qu'entre autres, il va nous aider à nous débarrasser complètement de cela. Voilà, on va terminer. Je vais conclure et avec ce récit de consolation. J'espère pas avoir fait trop de redites ni manger la conclusion que Sophie va nous apporter. Mais ça me paraissait vraiment un exemple qui collait vraiment bien sur cette idée-là. Voilà, des gens qui avaient besoin de cette consolation, besoin d'être remis sur pied. Alors, on a appris quelques éléments importants. Il peut nous arriver à tous d'être abattus, marqués par ce qui nous arrive, fragilisés. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On est des êtres humains. Et il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on vit des moments et qu'on les porte peut-être douloureusement. Certains les vivent ce qui leur arrive de façon différente. Chacun a des besoins spécifiques. On a vu que Pierre, il avait besoin d'un petit traitement spécial par rapport aux autres. Il ne suffisait pas d'avoir partagé ce repas avec le Seigneur. Il fallait qu'il ait cet échange direct avec lui pour véritablement finir ce travail de consolation. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que quand le besoin est fort et quand nous voulons y aller, il faut plonger, comme Pierre. Il faut plonger et être prêt à nager 100 mètres pour arriver jusqu'au rivage et pour véritablement permettre la rencontre avec celui qui est prêt à nous accompagner. Alors, sommes-nous prêts à plonger, à nous jeter à l'eau? Et puis, je redis en terminant le verset par lequel je commençais, qui était la fin du verset du chapitre précédent, et qui me semble vraiment couvrir cela. Ceci est écrit afin que, je vais mettre « nous croyons », parce que je me mets dedans, hein, « nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que tu es vivant. Nous le croyons, nous l'avons lu, nous l'avons entendu. Que cela puisse vraiment transformer nos vies et nous rendre conscients que tu es à nos côtés, tu es là présent. Et si nous avons un besoin, c'est auprès de toi que nous pouvons le chercher la réponse, chercher la solution, chercher l'accompagnement, le réconfort, la consolation. Merci pour ces paroles que tu nous dis et qui peuvent nous faire du bien, chacun d'entre nous. Amen.